pour deux pathologies équivalentes prises en charge au bloc opératoire. L'anxiété, le stress et le ressenti de chacun est très individualisé. Toute la philosophie derrière tout ça, c'est développer vraiment une stratégie où le patient est au centre de sa prise en charge, où c'est lui qui décide et surtout qui est le plus à même de savoir quel besoin il a. Et donc le but, c'est vraiment, maintenant qu'on l'a évalué, de proposer largement aux patients qui le souhaitent et qui sont demandeurs.
Bienvenue dans la 7e saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique proposé par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsay. Aujourd'hui, la DRE soutient 280 projets de recherche, tous centrés autour d'un objectif, améliorer la prise en charge des patients. Dans cette saison, nous vous emmenons à leur rencontre pour comprendre comment la recherche change la vie des patients et des médecins du groupe Ramsay. Pour ce premier épisode, direction de la clinique Jouvenet à Paris pour rencontrer Dr Philippe Nguyen. Cet anesthésiste réanimateur a porté un projet de recherche sur la sédation loco-régionale contrôlée par les patients en orthopédie intitulé PACOSA.
PACOSA, c'est un acronyme anglais qui signifie en français « sédation autocontrôlée par le patient ». Pour la chirurgie orthopédique. C'est une étude qu'on a dessinée il y a maintenant 3 ans qui s'intéresse à améliorer le confort des patients qui sont opérés de la chirurgie de l'épaule par voie arthroscopique sans anesthésie générale. Et l'idée, c'était, alors même que cette technique de base leur procure une absence de douleur et un confort qui est acceptable, améliorer leur ressenti au bloc opératoire en utilisant un dispositif qui permet de leur administrer une sédation à leur convenance, c'est-à-dire contrôlée par eux-mêmes. Actuellement, il faut savoir que les procédures sous anesthésie locale, qui méritent une sédation si le patient le souhaite pour contrôler son anxiété, sont administrées par le médecin anesthésiste. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'était créer donc ce petit dispositif-là qui permettait au patient lui-même de contrôler sa propre sédation. On est au bloc opératoire donc de la clinique Jouvenet. Aujourd'hui, on va prendre en charge les patients concomitamment avec le docteur Sieck qui est ici. En particulier, on a une patiente aujourd'hui de 64 ans qui vient pour une chirurgie, qui est une chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire qu'elle s'est abîmée les tendons de son épaule, et donc il faut les réparer un à un. Et donc on va lui proposer, pendant l'intervention, d'avoir notre dispositif PACOSA, d'autosédation, pour qu'elle soit tout à fait satisfaite et confortable de façon adaptée pendant son intervention.
Vous avez mangé quand la dernière fois ?
Hier soir.
Ce matin, vous avez mangé quoi ?
Rien. Bravo. Et j'ai même pas pris mon levothyrox.
Ok. Alors, le levothyrox, vous auriez pu, mais c'est pas grave, vous le prendrez juste après. Et donc, vous avez arrêté de boire à 6h30.
Oui,
et
c'est ça.
C'est absolument parfait.
Je m'appelle Rani et j'ai 64 ans. Et je viens me faire opérer de la coiffe des rotateurs parce que j'ai une déchirure qui date il y a quelques années déjà. Enfiler mon pantalon, c'est l'horreur. Enfiler une robe par le bas, c'est l'horreur. Je peux plus nager sur le dos et tout, voilà. Tout ce qui nécessite en fait de lever le bras.
Donc là, vous allez bénéficier pendant l'opération d'une procédure dont l'efficacité a été évaluée par une précédente étude clinique. Et après l'opération, cette fois, vous allez participer vraiment à un essai clinique en portant une attelle dont on évalue en ce moment l'efficacité. Pourquoi avoir accepté en tant que patient de faire partie de cette étude clinique?
Je pense que c'est important de pouvoir aider à faire avancer les soins, en fait, parce que déjà la maîtrise de la douleur et puis le confort, en espérant que ça va aller. Bon, je suis toujours un petit peu anxieuse, hein, donc que là, jusqu'à présent, je trouve que c'est la façon de faire. Là, en fait, moi, je trouve que c'est très bien. Donc voilà, on verra la suite. Pour l'instant, so far, so good.
Vraiment, le moment où ça a germé, c'était les patients qui demandaient de façon assez répétée une dose d'anxiolyse supplémentaire pendant l'intervention, alors même qu'ils décrivaient très clairement n'avoir aucune douleur. C'était vraiment un inconfort, la sensation de vouloir être un peu déconnecté de ce qui se passe au bloc opératoire, ce qui se comprend tout à fait. Et c'était en discutant avec un confrère qui travaille en maternité, qui m'expliquait les derniers protocoles que eux avaient pour doser les péridurales, que je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait implémenter chez nous. À l'époque, les péridurales, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire c'est le médecin anesthésiste qui mettait sa dose, qui jugeait un peu au doigt mouillé combien est-ce qu'il pensait devoir doser la péridurale. Et maintenant, il n'y a plus une seule maternité en France où c'est encore comme ça. Toutes les parturientes qui ont une péridurale ont une petite télécommande qui leur permet d'ajuster au plus finement, selon leurs besoins à elles, la dose de la péridurale. Et donc nous, on a pris ce dispositif-là qui était initialement pensé à la péridurale, qu'on a transposé au bloc opératoire pour la sédation intraveineuse.
En consultation, je vous avais expliqué qu'on allait anesthésier votre épaule.
D'accord.
Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Pendant l'intervention, vous êtes réveillé. Il n'y a que l'épaule
D'accord.
qui est endormie. On va vous proposer un petit dispositif pour améliorer votre confort.
D'accord.
C'est une petite télécommande que vous avez dans la main.
D'accord.
Qui, quand vous appuyez dessus, vous distribue un petit relaxant à
D'accord.
votre souhait.
D'accord.
Si vous n'avez pas besoin, vous appuyez
oui.
pas.
D'accord.
Et si à un moment donné, vous trouvez le temps long ou si c'est pas forcément agréable
D'accord.
pour des raisons X ou Y, même
D'accord.
si l'épaule sera bien endormie,
D'accord.
vous avez ce petit bouton et vous
D'accord.
êtes autonome pour gérer votre confort.
Ok.
Ça
D'accord.
change rien sur votre sortie après,
D'accord.
sur les durées de présence à la clinique.
Mm-hmm.
Ça augmente juste votre satisfaction oui. et votre confort au bloc opératoire.
D'accord.
En tout cas, on le souhaite.
Je serai plus décontracté.
Exactement, oui. tout à fait. Et bah écoutez, très bien.
L'objectif vraiment que nous, on a décidé de faire pour cette technique d'anesthésie-là, c'est vraiment se concentrer sur le ressenti patient et le confort du patient. On a des échelles qui permettent d'évaluer le confort des patients et le ressenti d'une technique d'anesthésie loco-régionale qui sont validées dans plusieurs revues, par exemple l'échelle Evan, et plus précisément l'échelle Evan-LR pour l'anesthésie loco-régionale, qui est l'échelle qu'on a utilisée. C'est un questionnaire qui a plus d'une trentaine de questions sur tout le parcours patient et qui était rempli par le patient à la sortie de l'hôpital, donc une fois l'intervention terminée.
Avant l'opération, lors des visites avec l'anesthésiste, je me suis sentie rassurée, détendue, mise en confiance. Beaucoup moins qu'attendue, comme d'habitude, plus qu'attendue, beaucoup plus qu'attendue. Pendant l'opération, j'ai ressenti des sensations désagréables comme la soif, la faim, des nausées, vomissements, maux de tête. Beaucoup moins qu'attendu, comme attendu, plus qu'attendu. Après l'opération, j'ai eu mal, beaucoup moins qu'attendu, comme attendu, plus qu'attendu, beaucoup moins.
Alors les premiers résultats, ils sont surprenants sur plusieurs points. Tout d'abord, on s'est rendu compte que la satisfaction patient était très bonne, quelle que soit la sédation utilisée, c'est-à-dire évidemment par le médecin anesthésiste, mais également par le dispositif PACOSA, avec un score Evan-LR supérieur à 80 sur 100, c'est-à-dire très satisfaisant. En ce sens-là, notre étude n'a pas montré de supériorité à notre technique, elle n'est pas meilleure sur le confort des patients que la sédation réalisée par le médecin anesthésiste, ce qui est assez rassurant, ça veut dire que déjà les anesthésistes travaillent plutôt bien. A l'inverse, ça montre que cette sédation, auto-contrôlée par le patient, est une vraie alternative, parce qu'elle n'est pas non plus moins bonne, au contraire, ça procure un niveau de satisfaction qui est équivalent au standard qu'on réalise actuellement.
Allez, on y va à pied,
ça
va
être comment ?
Attendez, je vais voir.
Alors, je vais vous confier une petite télécommande. Sur cette télécommande, il y a un bouton, un seul bouton. Vous ne pouvez pas trop vous planter.
D'accord.
Quand vous appuyez dessus, le dispositif vous administre une dose du relaxant, du décontractant. C'est adapté à votre poids.
D'accord.
C'est adapté à votre taille.
D'accord.
Donc il n'y a aucun risque de surdosage.
D'accord.
Vous l'utilisez aussi souvent que vous avez besoin.
D'accord.
Il
n'y
a pas de dose minimum, il n'y a pas de dose maximum.
D'accord.
C'est vous qui gérez.
D'accord.
Et nous, on reste à côté de vous pendant toute l'intervention pour votre confort et votre sécurité.
Okay.
S'il y a quoi que ce soit, on discute.
Secondairement, en revanche, ce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est un critère qui est très important, c'est que les patients qui disposaient de l'autosédation avaient tendance à avoir recours à moins de médicaments, principalement parce qu'ils contrôlaient uniquement au moment où ils en avaient besoin. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a une très grande partie de patients qui utilisaient uniquement une première dose, un peu pour voir à quoi ça ressemblait, et qui après, juste le fait d'avoir la télécommande en main, avait cet effet d'anxiolyse juste parce qu'il savait qu'il pouvait s'administrer le médicament quand il le souhaitait. Et donc les doses totales cumulées étaient plus faibles lorsque c'est le patient qui utilisait ce dispositif.
On a commencé l'opération. Hein.
Oui, je sens rien, c'est bien.
S'il y a besoin, vous appuyez sur la télécommande,
D'accord.
vous êtes autonome.
D'accord.
On reste néanmoins à côté de vous, donc vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit.
Est-ce que vous avez l'impression que ça a fait effet alors que vous êtes un petit peu plus relaxé?
Je suis stone.
Je vous mets un petit masque à oxygène, comme ça si vous vous endormez, vous avez des petites réserves. Est-ce que vous êtes confortablement installé comme ça ?
Oui, parfaitement.
C'est un effet notable, surtout pour ce qui est le post-opératoire immédiat. Un patient qui bénéficie d'une sédation, quelle qu'elle soit, doit passer dans ce qu'on appelle la salle de réveil. Et donc, plus faible est la dose, plus court est le séjour en salle de réveil, ce qui favorise le flux patient, l'expérience patient globale. Et puis, dans les structures de soins qui sont soumises à une pression à chaque fois en volume, bah, ça accélère tout le flux patient.
Et donc là, il a mis la petite caméra, et sur l'écran qui est là, on voit l'intérieur de l'épaule de madame. On va voir l'étendue de la rupture, des tendons, tout ça. On fait un peu l'état des lieux, c'est le premier temps. Et après, tendon par tendon, on va réinsérer tout ce qu'il faut réinsérer.
toute la philosophie derrière tout ça, c'est développer vraiment une stratégie où le patient est au centre de sa prise en charge, où c'est lui qui décide et surtout qui est le plus à même de savoir quels besoins il a pour sa sédation. Et pour deux pathologies équivalentes prises en charge au bloc opératoire, l'anxiété, le stress et le ressenti de chacun est très individualisé. Et donc cette stratégie-là, elle permettait vraiment de donner au patient le contrôle de sa prise en charge. Et donc le but, c'est vraiment, maintenant qu'on l'a évalué, de le proposer largement aux patients qui le souhaitent et qui sont demandeurs.
Donc là, vous venez de rappuyer, madame, c'est
oui,
parfait.
Oui.
Vous avez rappuyé parce que vous aviez des douleurs, de l'inconfort ?
Non, pas du tout, c'est juste...
Pour profiter du moment.
Ouais, profiter du moment.
Vous avez bien raison.
La DRE de Ramsay a vraiment un rôle de promoteur de A à Z dans cette étude-là, parce que c'est à la fois un support pour toutes les démarches administratives, c'est-à-dire la réalisation du protocole qui est quelque chose de très fastidieux dans un travail de recherche prospectif, la validation de l'intérêt scientifique par leur comité d'orientation scientifique qui valide toutes les étapes et toutes les hypothèses qu'on peut avoir. Enfin, c'est un partenaire financier qui est majeur parce que toutes les recherches prospectives en France sont onéreuses, évidemment, à la fois sur la conception de l'outil de recherche, les demandes administratives des CPP pour obtenir tout ça et le partenariat financier avec les acteurs qui réalisent les logiciels en ligne pour la complétion, les randomisations, etc. Et donc c'est un soutien qu'on a eu tout au long de la création de cette recherche, depuis la rédaction du protocole jusqu'à la soumission et la publication. Donc c'est vraiment un compagnonnage très très important.
Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsay Santé.